Bonjour à tout le monde. Je veux commencer, on va commencer par prier. Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant pour ta parole que tu nous as laissée. On peut encore l'ouvrir ce matin et te laisser nous parler au travers elle. Seigneur, on prie que tu enlèves tous les obstacles que nous mettons entre cette parole et nous, et notre cœur. Nous te prions de les enlever et de nous aider aussi à enlever ce qui nous incombe d'enlever, pour que cette parole, Seigneur, coule dans nos cœurs et pousse comme cet arbre planté au bord d'une fleuve dont les feuilles ne dessèchent point et prospèrent et porte du fruit à ta gloire. Je te prie, Seigneur, que ces instants soient bénis pour mes frères, pour mes sœurs et pour moi-même, pour ce que tu as mis dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je commencerai ce message ce matin par deux questions pour nous. Est-ce que vous conviendriez avec moi, si je disais que les personnes qui devraient être les plus joyeuses et la plus reconnaissante sur terre devrait être les chrétiens?
Oui.
Est-ce que vous, ouais. Je pense que vous conviendriez avec moi de cela. Et, si je rajoutais, mais est-ce toujours le cas? Là, ce serait un peu plus difficile de répondre. Si, j'étais le seul chrétien ou si vous étiez le seul chrétien sur la terre, est-ce que ce serait toujours le cas? Que vous êtes la personne la plus joyeuse sur terre. C'est plus difficile à répondre. Parce que avec toutes les exhortations que nous avons dans la Bible, tous les versets qui parlent de la joie ou qui utilisent des synonymes de la joie, qui nous encouragent à être joyeux, il y en a tellement. Il est évident que c'est pour nous, chrétiens, c'est nous qui devons être les plus joyeux. Mais ce n'est toujours pas le cas. Un chrétien, un jour, a voulu évangéliser un non-chrétien. Et donc, il lui a présenté l'évangile. Sauf que le non-chrétien, à la fin, ayant vu ce chrétien, lui a dit, j'ai fait de problème comme ça, je voudrais pas finir déprimé comme toi. Ça peut nous faire rire. Mais est-ce que nous ne nous reconnaissons pas, parfois, dans ce chrétien-là, visage abattu, nonchalant, avec l'air triste? Moi, je dois l'admettre, je le suis des fois comme ça. Et si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, on avait eu une réunion d'église. C'était à Rehoboth. Et le lundi qui a suivi, avec les collègues, on prenait un café. On avait l'habitude de se dire ce qu'on avait fait de beau le week-end. Et à mon tour, je me souviens encore très bien, j'ai pris une attitude assez nonchalante, timide, du haut de mes 1m85. Et j'ai dit... on était en week-end d'église. Tellement timidement que un des collègues a dit, en rigolant, ça a dû être passionnant. Et les autres ont rigolé. Et ça m'a marqué. Je n'ai jamais oublié cela. Et depuis ce temps, tant bien que mal, j'essaye de laisser cette joie que le Seigneur met dans mon cœur s'exprimer. Parfois, c'est encore artificiel. Mais petit à petit, je progresse vers cette joie que le Seigneur mais dans mon cœur. Je voudrais qu'on lise ensemble dans Philippiens 1, si vous voulez bien prendre votre Bible, Philippiens 1. Je vais lire du verset 22 au verset 25. C'est Paul qui est en prison et qui écrit aux Philippiens, et à l'église de Philippe. Et il exhorte dans ses auditeurs... Je vais lire à partir du verset 22. S'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être auprès de Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Notamment, on le comprend quand on voit la situation dans laquelle il est, enfermé, en prison. Mais c'est quand même lui qui va encourager les Philippiens à la joie. Verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Vous avez compris, j'aimerais parler de la joie du Seigneur. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, avait promis ce qu'on appelle la terre promise aux Israélites. Dans la Nouvelle Alliance, on a aussi une sorte de terre promise, ressemblée à Christ. Et ça ne se limite pas au domaine de la piété, de la sainteté, mais aussi de la paix, de la joie que le Seigneur veut nous donner. Et c'est ce qu'on a aussi vu ces derniers jours, ces dernières semaines, avec l'évangile de Luc, où la venue de Jésus est annoncée comme un sujet de joie pour tous ceux qui l'attendent. Une joie que Dieu lui-même s'en occupe d'offrir aux hommes. C'est une joie qui dure. C'est une joie qui n'a pas de fin. Elle est atemporelle. Paul parle donc dans ce passage de contribuer à l'avancement et à la joie des Philippiens dans la foi. En d'autres termes, il veut contribuer, les aider à croître spirituellement, mais aussi à en tirer de la joie dans leur croissance. On entend très souvent parler de la croissance spirituelle, chose très essentielle, qui est la démonstration de la transformation que Dieu opère dans chacun de nous. Mais la joie dans la foi, on n'en parle pas beaucoup, on connaît un peu moins. Il s'agit simplement de cette joie qui devrait découler de notre croissance spirituelle. Et parfois, je pense qu'on voit ça dans les enfants, cette joie qu'ils ont de grandir. Quand, par exemple, ils vont aller au coin du mur ou sur une paroi et année après année, on va tracer d'un trait au-dessus de la tête et puis l'année prochaine, ils vont revenir ou dans les mois qui vont suivre. Ils vont voir comment ils grandissent et on va aussi lire sur leur visage comment ils sont heureux de voir comment ils grandissent. Vous connaissez peut-être, avant d'en arriver là, je vous ai dit que c'est quelque chose que le Seigneur veut pour nous, de croître spirituellement, oui, mais aussi d'en tirer de la joie dans notre relation avec lui, dans notre marche avec lui. Vous connaissez peut-être Galates 5, 22, 23, où il est question des fruits de l'esprit, où Paul écrit aussi là aussi, à l'église de Galates, pour que les gens de Galates aient ce fruit de l'esprit, pour avoir une vie communautaire agréable au Seigneur. Il dit ceci, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. De toutes ces qualités, il me semble que la joie, c'est celle qui transcende un peu toutes les circonstances. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes exilé, quelque part, sur une île déserte, tout seul, ou emprisonné pour votre foi, comme l'apôtre Paul, on l'a vu dans Apocalypse en ce moment, autour de la Bible. Qui, à part le Seigneur, allez-vous aimer? Avec qui devrez-vous être patient, ou bienveillant, ou en paix, si vous êtes toute seule, enfermée quelque part? Mais la joie, par contre, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de la joie du Seigneur pour ne pas déprimer, comme l'apôtre Paul dans sa lettre ici, où il est enfermé en prison et qui est en train d'exhorter les Philippiens à être toujours joyeux. Il est en train de travailler pour la joie, pour la croissance dans la joie des Philippiens. Lorsque j'ai dit plus tôt que les personnes les plus heureuses devraient être dans le monde, devraient être les chrétiens, ce n'est pas simplement parce que on a plusieurs passages bibliques qui nous exhortent à cela. Ce n'est pas parce que c'est seulement écrit, parce que s'il s'agissait simplement de les écrire, on pourrait aussi trouver des bouquins dans le commerce qui nous donnent des astuces, des techniques pour vivre une vie heureuse et joyeuse. C'est surtout, je pense, premièrement, parce que Jésus-Christ, de qui nous tirons notre appellation chrétien, je pense que c'était la personne la plus joyeuse, la plus reconnaissante, qui sont passés sur cette terre. Il est dit en Hébreux 1:9, par exemple, en parlant de Jésus, « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Autant on peut être oint du Saint-Esprit, mais là on voit aussi qu'on peut être oint de la joie du Seigneur. Et le Seigneur, à plusieurs reprises, on le voit dans l'évangile de Jean, a parlé de cette joie parfaite qu'il voulait donner, qu'il voulait offrir à ses disciples. Il ne s'agissait pas d'une technique, ni d'une expérience bulle de savon. Non, il s'agissait de quelque chose de permanent, quelque chose de pur, quelque chose d'authentique, de divin. Le Seigneur, d'ailleurs, ne nous proposera jamais de la pacotille. Il ne proposera jamais des choses qui sont sans valeur. Tout ce que le Seigneur veut pour nous est précieux. Si précieux que si nous ne sommes pas prêts à vendre tout ce que nous avons pour recevoir la chose, nous devrions nous demander si nous avons réalisé qui est le Seigneur pour nous. En acte 13, verset 52, on lit que les gens qui s'étaient tournés au Seigneur à Antioche, quand l'apôtre Paul leur avait annoncé l'évangile, ils n'ont pas seulement été remplis du Saint-Esprit, mais ils ont été aussi remplis de la joie du Seigneur. C'est aussi une preuve que nous sommes remplis du Saint-Esprit, d'être remplis de cette joie du Seigneur. Pourquoi les chrétiens devraient être les personnes les plus joyeuses? C'est aussi parce que notre Dieu est un Dieu joyeux. Autrement, il ne nous demanderait pas d'être joyeux s'il ne l'était pas. Il en va de soi que nous, ses enfants, soyons aussi joyeux. Sophonie 3:17 dit ceci. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ou dans la version Semeur, à cause de toi, il poussera des cris de joie. Il exultera. Croyons-nous que le Seigneur exulte quand nous lui faisons confiance, quand nous nous détournons des choses qu'il nous montre dans notre vie? Croyons-nous qu'il crie de joie? Croyons-nous qu'il nous utilise pour témoigner aux autres et à Satan, comme il l'a fait avec Job, en disant « Regarde mon serviteur qui a confiance en moi ». Croyons-nous que le Seigneur exulte de joie sur nous quand nous lui faisons confiance? Je pense qu'il y a comme une fausse note quand on dit qu'on est en communion avec ce Dieu-là, mais qu'on est triste tout le temps, qu'on est malheureux tout le temps, qu'on est déprimé tout le temps. Et cette exhortation de Paul aussi, à être toujours joyeux, ça nous sert aussi quelque part à nous préparer pour aller au ciel, là où nous passerons l'éternité. Parce que c'est un endroit, c'est un lieu de louange et de joie perpétuelle, le paradis. Jésus a d'ailleurs dit, il y a beaucoup de joie dans le ciel et devant les anges de Dieu. Lorsqu'un pécheur, par exemple, se convertit, le paradis est un lieu de joie. Et c'est là notre destination, c'est là où nous passons notre éternité. Et nous vivons ici en tendant vers cette joie pour glorifier notre Dieu. D'une manière générale, et c'est aussi valable chrétien comme pour les non-chrétiens, lorsque nous n'avons pas la joie, dans ce que nous faisons, n'est-ce pas qu'on est très vite tenté de perdre la motivation? Plusieurs personnes quittent leur travail pour diverses raisons, dont celle de ne tirer aucun plaisir ou aucune satisfaction personnelle dans ce qu'ils font. Dans la foi que nous professons, chaque jour, la foi par laquelle nous tendons à marcher, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas joyeux, nous serons austères, froids, fermé. Et cela va repousser les gens. Au lieu de leur donner envie de venir à nous, de chercher à trouver ce que nous, nous avons trouvé, la personne de Jésus. Voilà peut-être une raison pourquoi l'apôtre Paul exhorte ici les Philippiens à avoir de la joie dans la foi. C'était aussi important pour lui de grandir spirituellement que d'être rempli de la joie du Seigneur. Je parle de ce sujet de la joie parce que c'est quelque chose qui me manque personnellement beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je suis de mauvaise humeur, je vois les conséquences que cela a sur mon état spirituel, mais aussi sur les personnes qui sont autour de moi. Et je me demande, mais Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Être quelqu'un de mauvaise humeur, de grincheux et de polluer l'ambiance autour de moi. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux? Et la réponse est évidente. C'est pas ça que le Seigneur veut pour moi. Le Seigneur veut pour nous d'être entièrement joyeux. Premièrement parce que cela glorifie Dieu. Qu'à travers n'importe quelle circonstance, nous soyons toujours joyeux et en paix. Le Seigneur veut aussi cela parce que c'est pour mon bien et pour le bien de tous ceux qui sont autour de moi. La bonne joie, elle est communicative. Elle envoie de bonnes ondes, j'ai envie de dire. Enfin, le Seigneur veut que nous soyons toujours joyeux parce que c'est quelque chose aussi que les gens, lorsqu'ils nous verront, quand nous leur proposerons Christ à la place de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils recherchent pour avoir de la joie, ils se diront, tiens, là, il y a vraiment quelque chose de différent dans ce gars qui me parle de ce Jésus. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens également, chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Il ne s'agissait évidemment pas de quelque chose d'artificiel, à fabriquer par soi-même, ou de prétendre, alors qu'on ne l'est pas. Mais c'est quelque chose qu'on peut réellement connaître, expérimenter, cette vraie joie, celle que le Seigneur offre. C'est celle, par exemple, de lui appartenir, d'appartenir au Seigneur, d'avoir été racheté, d'avoir été réconcilié avec Dieu et pardonné de ses péchés. Comme on l'a vu en début d'année passée, dans l'étude de l'Épître aux Romains, le bonheur de se savoir pardonné. C'est en Romains 4 et aussi le psaume 32 qu'on avait lu à cette occasion. Cette joie que le Seigneur nous donne, c'est aussi celle-là qui nous vient parce qu'on se rappelle que nous sommes enfants de Dieu à présent. Combien peut être grande la joie d'un enfant, d'un orphelin, abandonné, livré à lui-même dans la rue, et qu'un jour il se fasse adopter dans une famille où il reçoit de l'amour, il reçoit de l'affection, où on l'appelle mon enfant, et qui jouit des mêmes privilèges que l'enfant de la maison. Et cet enfant de la maison l'appelle mon frère, ma sœur. Combien peut être sa joie? Elle ne peut être qu'immense, si immense que ça peut même le pousser, le mettre, le gêner quelque part. Et ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a adoptés comme ses enfants, nous qui étions loin et coupés de lui. Et que dire aussi de ces précieuses richesses que le Seigneur a pour nous dans le ciel. Lorsque nous ne courons pas après les richesses terrestres. Et surtout, que dire de ce cadeau immense que le Dieu créateur que nous avons chanté, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu saint et trois fois saint, veuille habiter dans nos cœurs, veuille habiter dans notre corps, veut faire de notre corps son temple où il habite par son esprit et nous fait prendre part à sa nature divine pour nous conformer à la ressemblance à Christ. Que dire de tous ces cadeaux? Cela ne nous rend pas assez joyeux? Cela ne nous donne pas assez d'espérance et d'espoir? Pourquoi, malgré le fait que ce soit le Seigneur lui-même qui veut nous remplir de sa paix, il nous arrive trop souvent d'être de mauvaise humeur, grognant et amer? C'est peut-être aussi valable dans les autres domaines, la sainteté, la piété. Le Seigneur aussi, là, il nous donne sa grâce pour résister contre le diable, pour ne pas pécher, pour résister à la tentation. Et là aussi, nous tombons. On pourrait aussi parler sur ce domaine ou d'autres qualités du fruit de l'esprit, je suis d'accord. Pourquoi est-ce que je parle que de la joie? Si on prend la joie et la piété, par exemple, je pense pas que cela ait le même poids devant le Seigneur. Quand nous serons devant le Seigneur, s'il nous demande pourquoi nous n'avons pas été joyeux ou parfois pourquoi nous avons manqué de la joie, on trouvera peut-être des justifications pour dire telle ou telle circonstance que j'ai traversée m'a fait perdre ma joie. Le Seigneur ne nous sera pas exigeant, ne nous fera pas de reproches là-dessus. Mais il nous dira, c'est dommage parce que j'avais mis tous les moyens pour que tu sois toujours joyeux. Je t'avais tout donné. Tu n'as pas frappé, tu n'as pas demandé pour que je te les donne. Par contre, pour ce qui est de la piété, si le Seigneur nous a montré des choses à changer dans notre vie et qu'on ne l'a pas fait, là, il sera plus strict envers nous. Le Seigneur sera plus strict envers nous si nous ne changeons pas une habitude qu'il nous demande de changer. Hébreux 12, 14 nous dit de rechercher la paix, la sanctification, sans quoi personne ne pourra voir Dieu. J'ai réfléchi à la question et je vais vous partager trois éléments qui sont peut-être à l'origine de nous faire perdre trop souvent notre joie que le Seigneur nous donne. Nous ne connaissons peut-être pas assez notre Dieu et sa parole. Je dis bien peut-être que nous traitons la parole de Dieu, la Bible que nous avons, et toutes ces promesses, comme un simple livre, comme ceux qu'on peut trouver dans le commerce, et qui parle ou qui prétendent donner des clés pour une vie heureuse. C'est vrai que pour une personne lambda, la Bible est le même niveau que les autres livres, mais pour nous, il n'en doit pas être ainsi. Et vous savez, l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de prendre cette parole et de la graver dans nos cœurs, de la graver dans notre esprit, dans notre cœur, pour que cette parole soit vivante en nous. Comme cela a été il y a près de 2000 ans, quand cette parole a été incarnée, a été faite chair en la personne de Jésus, et qui a vécu plein de grâce et de vérité parmi les hommes. Une deuxième chose, c'est que nous cherchons aussi parfois notre joie ailleurs que dans le Seigneur. Si les choses que j'ai citées, le pardon, être enfant de Dieu, racheté, avoir l'assurance d'être dans le paradis avec le Seigneur pour l'éternité, si ces choses ne nous remplissent pas de joie, c'est peut-être parce que nous ne les valorisons pas assez. Elles ne sont pas assez précieuses à nos yeux. Nos yeux sont en quelque sorte voilés là-dessus. Et ça, le diable aussi, il travaille pour nous fermer les yeux, pour nous bander les yeux sur ces choses-là, pour qu'elles ne prennent pas de la valeur à nos yeux. On les prend juste comme des acquis. Et on cherche nos joies ailleurs, dans des choses éphémères et artificielles. Ce genre de joie que l'apôtre Jacques nous met en garde de rechercher. Il dit ceci au chapitre 4, les versets 8 à 10. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mêmes pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On pourrait tenter de dire que on a la foi et que toutes ces choses sont vraies, on y adhère, on y croit, on ne doute pas une seconde et que tout roule, tout baigne. Mais non, c'est pas suffisant de dire cela. Autrement, pourquoi l'apôtre Paul n'a pas cessé de prier pour les Éphésiens alors qu'il savait que les Éphésiens ont la foi au Seigneur Jésus-Christ? Je vais vous lire dans Éphésiens 1 ce qu'il dit à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, il s'arrête pas là et il dit bravo. Non, il continue. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce n'est pas « je crois en toutes ces choses » et je fais ce qui me plaît. Mais non, j'y crois et je prie que le Seigneur m'ouvre les yeux sur ces choses encore, me les révèle et que cela prenne de plus en plus de valeur, d'ampleur, de profondeur dans ma vie. Nous avons, s'il le faut, il faut prier, il faut même jeûner pour demander cela, comme l'apôtre Paul le faisait pour les Éphésiens. Que le Seigneur nous ouvre les yeux sur tout ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il est encore en train de faire aujourd'hui et fera encore demain. Une troisième chose que je pense être à l'origine de notre perte de joie, c'est que parfois nous nous mettons trop au centre des choses. Nous avons l'impression que le monde tourne autour de nous. Que voulons-nous d'autre pour être joyeux, frères et sœurs? Comme l'apôtre Paul nous exhorte aujourd'hui. Que tout se passe comme on espère, comme on apprécie, ou que tout se passe comme le Seigneur l'a prévu. Nous sommes trop souvent habitués à attendre que les choses arrivent de la manière que nous les apprécions. Et si dès aujourd'hui, frères et sœurs, on prenait cette décision d'accepter plutôt que les choses se passent comme le Seigneur les apprécie dans notre vie, est-ce que ce ne serait pas une source en moins de contrariété qui nous fait perdre notre joie quand les choses ne se passent pas comme on l'a espéré, comme on s'attendait, comme on l'avait prévu? Prenons par exemple le cas du culte comme ce matin. J'ai parfois réfléchi à sur comment doit se passer un culte pour que les gens disent à la fin « Ah, le culte était bien » ou « Oh, le culte n'était pas très bien aujourd'hui par rapport aux autres fois. » Lorsqu'on dit de telles choses, est-ce qu'on n'est pas en train de se placer comme si le culte était fait pour soi? Comme si le culte était fait pour plaire à ma personne? Le culte n'est pas pour nous. Le culte est pour Dieu. Nous rassemblons pour offrir ensemble quelque chose à Dieu. Le culte n'est pas l'endroit où je viens pour attendre quelque chose de mon frère, où j'espère quelque chose de mon frère, ou ma sœur, qu'elle fasse les choses comme j'aimerais, pour me bénir. Non. Le culte, c'est l'endroit où on met tous ensemble et on offre au Seigneur et le Seigneur utilise tout ce qu'on lui donne pour nous bénir en retour. Et je trouve très intéressant cette initiative de lire ensemble l'évangile de Luc jusqu'à Pâques. Ce sera l'occasion pour que chacun, si le Seigneur lui met des choses dans le cœur, de venir mettre en commun, de partager pour nous encourager. C'est le Seigneur qui nous encourage au travers de sa parole. Il y a quelques années en arrière, si vous m'aviez demandé qu'est-ce que j'aimerais ressembler quand je serai grand, c'est la question qu'on pose beaucoup aux enfants, moi je vous aurais cité une longue liste de personnes fameuses et très remarquables d'ailleurs, par leur réussite ou leurs actes de charité ou de notoriété. Mais maintenant, les choses ont changé, merci Seigneur. Il y a une seule personne à qui je voudrais ressembler aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un homme ou pour une femme sur cette terre que cela. Nous avons tellement de privilèges étant enfants de Dieu. Et je le pense sincèrement que nous avons encore tant de choses à découvrir avec le Seigneur. Mais malheureusement, nous vivons parfois comme, excusez-moi du terme, comme des mendiants, comme des orphelins. Et c'est pour ça que on commet parfois tant de mauvais choix. On commet tant de gaffes. On se blesse mutuellement, tellement. Ce qui nous donne la joie, ce sont parfois les mêmes choses qui donnent la joie aux non-chrétiens. Quelle différence y a-t-il entre eux et nous dans ce cas? Mis à part le fait que nous rendons grâce à Dieu pour tout. Parce que nous savons que c'est lui qui a tout créé. Moi, je voudrais nous rappeler ce matin, même si on rend grâce au Seigneur pour le beau temps et autre chose, le Seigneur a plus que le beau temps pour nous. Il a plus que la prospérité, le confort matériel, le travail, le salaire, chaque fin du mois pour nous. Il a pour nous plus que la reconnaissance que nous cherchons devant les hommes, ou le fait qu'on reconnaisse mes droits. Le Seigneur a plus que ça pour moi. Il a plus que la santé pour nous. Il a plus que la guérison même pour nous. Il a plus que le vêtement. Il a plus que l'aliment pour nous. Toutes ces choses après lesquelles on court des fois, on est tellement pris dedans. Souvenez-vous de cette expression du Seigneur. À combien plus forte raison. Le Seigneur a tellement, beaucoup plus pour nous. Quel privilège, par exemple, que d'avoir sa parole écrite. Pour la lire, pour la méditer et laisser Dieu se révéler à nous chaque jour. Quel privilège de savoir que ma vie est gardée entre ses mains. Du début jusqu'à la fin. Depuis ma naissance jusqu'au jour où il m'appelle à lui ou qu'il revienne me chercher. Un moyen pour nous, peut-être pour que la joie du Seigneur nous habite constamment, c'est de constamment nous rappeler notre destination finale, celle de ressembler à Jésus. Ainsi, on va pas se laisser distraire ou tromper par les joies artificielles que nous propose le monde. Nous ne nous laissons pas distraire, frères et sœurs, dans ce voyage, dans ce cheminement, dans cette marche à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais prions d'en tirer les joies que cela procure. Parce qu'il y a tellement de joie et de repos et de paix dans ce que le Seigneur nous donne. Tout ce qu'il nous donne, je l'ai dit, a de la valeur. Tout ce qu'il nous donne, ses promesses sont dans la parole, dans la Bible. Et si nous ne la lisons pas, nous ne la méditons pas, nous en serons ignorants et nous vivrons comme des orphelins. Je vais conclure en lisant Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Notre appel n'est pas seulement de venir nous faire pardonner nos péchés, mais de marcher à l'exemple du Seigneur, de le ressembler de plus en plus. Le Seigneur veut tout partager avec nous, sa sainteté, sa pureté, son caractère, sa paix et sa joie. Prions et demandons au Seigneur de remplir de nous remplir de sa joie en nous ouvrant les yeux sur tout ce qu'il a fait et fait encore aujourd'hui et fera encore dans l'éternité pour nous. Et que cette joie soit communicative et présente dans toutes nos actions, nos paroles, que les gens autour de nous nous voient faire et nous entendent dire. Car il y a pour nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons lui demander pour être toujours joyeux. Il y a infiniment plus que nous pouvons penser ou espérer en lui. À Dieu soit toute la gloire, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, on te rend gloire et grâce, parce que tu as tout prévu pour concourir à notre épanouissement sur cette terre, même si, Seigneur, les choses tournent très mal. Tu as tout pourvu et tu utilises toutes les circonstances pour concourir au bien de ceux qui t'aiment. Nous voulons être de ceux-là qui t'aiment et qui s'attendent en toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Amen.